L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Bonjour Lionel.
Et bonjour Maline.
Alors, une mini-série, on débute aujourd'hui.
Et voilà, une mini-série. Alors, j'arrête de regarder par la fenêtre, là. J'étais un peu étourdi, là, tout à l'heure.
Il n'y a pas grand-chose à voir, en plus, aujourd'hui.
Les belles couleurs du printemps, malgré tout. C'est un beau vert tendre, fluo, des êtres pourpres aussi.
Un petit peu voilé,
aussi,
aujourd'hui.
Ouais, c'est un peu voilé, par contre, c'est vrai. Mais voilà, une mini-série qui va vous parler, hein, en fait. Maintenant que vous connaissez un peu plus les interactions des éléments air, eau, terre et feu, appelés aussi facteurs abiotiques, c'est-à-dire qu'ils ne relèvent pas du vivant, avec la forêt et ses différents peuplements forestiers, qui eux, par contre, sont bien des êtres vivants. Hein. La forêt est constituée d'arbres, donc d'êtres vivants, et également de l'ensemble de la biocénose, et abrite l'ensemble des facteurs biotiques, là. Eh bien, je vous propose de nous mettre à la place d'un gestionnaire forestier pour découvrir ensemble l'ensemble des points d'observation et d'analyse qu'il doit mener lors d'un diagnostic sylvicole. Et donc là, c'est un diagnostic sylvicole, hein, c'est le premier épisode de cette mini-série, donc c'est la description qualitative de cette série sur les diagnostics sylvicoles. Donc un diagnostic sylvicole pertinent du peuplement forestier afin d'établir un choix d'action cohérente dans le temps. Alors cette présentation, hein, je l'ai dit, des diagnostics sylvicoles, je vous la ferai en deux temps. Ici, le premier temps, le diagnostic sylvicole par la description qualitative du peuplement forestier. Puis, lors de la prochaine chronique, la description plus quantitative qui regroupe plus les prises de mesures dendrométriques sur les arbres pour évaluer en mètres cubes leur volume sur pied. Alors vous l'avez compris, le gestionnaire forestier doit avoir une vision d'ensemble sur les interactions des facteurs biotiques et abiotiques au sein du peuplement forestier dont il a la responsabilité, et pour mieux les observer, il doit procéder à un ensemble de mesures sur le terrain en se fiant à une procédure précise, dont les étapes, si elles sont suivies dans l'ordre, lui permettront de mieux comprendre la dynamique du peuplement forestier et d'émettre une perspective plutôt fine sur son évolution, sa croissance, sa régénération. À la suite de cela, il pourra attribuer des objectifs de gestion en respectant toutes les fonctions de la forêt. Souvenez-vous, hein, de la chronique 2 sur les rôles de la forêt. Et il déterminera des travaux d'accompagnement étalés dans le temps. Ça, c'est la chronique 3 sur les documents de gestion, qui par conséquent engendreront des améliorations et ou des récoltes de bois.
Alors on imagine qu'avant même d'étudier le contenu du peuplement, il faut connaître l'environnement général, le contexte climatique et géologique sur lequel pousse le peuplement, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est la première étape ?
Eh bien oui, tout à fait, Maëline. L'étape 1 consiste à situer le peuplement dans sa région naturelle et d'obtenir des informations sur la composition du sol profond, plus exactement le type de roche-mère, ainsi que son exposition aux précipitations et températures locales à travers la lecture d'un diagramme ombrothermique, par exemple. En fait, ici, le forestier doit enquêter en récoltant un ensemble de documents climatologiques, pédologiques, écologiques, hydrographiques, topographiques, qui a trait à l'eau et au relief, pour mieux comprendre les conditions de croissance de son peuplement forestier étudié. On peut retrouver toutes ces informations synthétisées dans un seul document appelé « Catalogue des stations », qui permet de guider le gestionnaire grâce au recensement de toutes les données utiles pour définir par type et unité l'ensemble des stations très diversifiées présentes sur un territoire inclus dans la zone d'étude. Souvent, grâce à la situation topographique du peuplement, donc sur un sommet, un versant, un replat ou un fond, et selon la profondeur du sol, inférieure ou supérieure à 50 cm, la station est classifiée et retrouvée par le gestionnaire grâce à une clé de détermination. Aujourd'hui, il existe un programme participatif animé par le CNPF qui s'appelle BioClimSol et qui permet, selon sa position GPS, de reconnaître l'unité stationnelle sur laquelle on se trouve.
Alors c'est un outil fort pratique, ma foi. Alors maintenant qu'on sait sur quel type de station on est, j'imagine qu'on va se pencher sur le peuplement grâce à ce qu'on voit. Quelle est donc cette étape 3 ?
Eh bien, on commence déjà par observer l'exposition nord-sud, est-ouest du peuplement. C'est très important, surtout pour mieux comprendre les relations qu'il va y avoir par rapport à son ensoleillement, pardon, à l'UBAC Par exemple, en Lubac, c'est le versant nord des peuplements. Hein, ils sont souvent mieux adaptés au gel. Hein, les essences sont mieux adaptées au gel à Lubac qu'à l'Adret. L'Adret, c'est le versant sud qui souvent est constitué d'essences souvent plus héliophiles, donc qui aiment la lumière. Puis par rapport à leur arrosage et exposition au vent dominant, il faut en tenir compte pour prévoir les enjeux par rapport à leur protection des tempêtes et sécheresses. Ensuite, on regarde le peuplement forestier en lui-même, en définissant son régime, donc futaie, taillis ou taillis sous futaie, et son traitement, régulier ou irrégulier. Pour faire simple, un peuplement de futaie provient d'une reproduction sexuée sous forme de graines, et un taillis est issu des bourgeons par reproduction asexuée. Le traitement, lui, correspond à l'âge du peuplement. Si les arbres du peuplement ont tous le même âge, on dira du peuplement qu'il est régulier. Et si les arbres n'ont pas tous le même âge et sont donc de dimensions différentes, on dira de lui qu'il est irrégulier. Ainsi, on peut être en présence de futaies régulières, de futaies irrégulières ou jardinées, de taillis simples, donc ça c'est régulier, ou furetées, dans le cas où les brins sur les souches n'ont pas le même âge. Dit comme ça, ça paraît simple, mais c'est vraiment digne d'un apprentissage approfondi, et nous, à l'école forestière, bah, on est là pour ça.
Alors j'imagine qu'il faut savoir reconnaître toutes les essences végétales présentes dans le peuplement pour cette étape 3.
Oui, voilà, c'est l'étape 3. Donc à ce moment, on doit procéder à un inventaire des végétaux par strate, hein, préalablement identifiés dans le peuplement. De la strate bryolichénique, donc ça c'est les mousses et lichens, à la strate arborée, donc les arbres, tout doit être inventorié. Une fois qu'on obtient notre cortège floristique avec leurs noms et familles, le forestier cède de la flore forestière française, donc qui est en 3 volumes, hein, donc il y a la flore forestière française de plaine et colline, de montagne, volume 2, et méditerranéenne, de volume 3, pour connaître leur présence déjà et voir s'il n'y a pas d'espèces protégées ou, à contrario, d'espèces invasives, pour connaître leur taux de recouvrement et surtout pour définir l'hôte écologie de chaque essence, ce qui permet d'obtenir des indications sur les conditions trophiques, hein, donc alimentaires, de la station. Ainsi, par exemple, une renoncule rampante indique un sol plutôt hydromorphe, hein, qui se charge en eau plus ou moins temporairement. Le grand plantain indique un sol tassé. La digitale pourpre, un sol dont le pH est très acide, alors que la clématite vigne blanche est plus calcaricole, qui veut dire pousse sur un sol plus calcaire. C'est pareil pour les arbres. Ils donnent ces indications, mais comme leur installation ou conservation provient plus aujourd'hui d'un choix humain par rapport à la station que d'une installation naturelle, c'est pour cela qu'il faut surtout regarder la strate herbacée en observant les plantes bio-indicatrices.
Eh bien, il faut en savoir des choses hein, pour être forestier.
Et oui, le forestier doit énormément regarder tout cela avec attention. Hein, et c'est pas tout, c'est justement pour ça que c'est passionnant. Car en fait, lors d'un diagnostic sylvicole, on met en lumière un maximum de données liées au vivant. C'est comme si on faisait une photo à un instant T et qu'on devait nommer chaque élément constitutif de l'œuvre, du sujet au type de papier.
Et donc, quelle est la dernière étape ?
Eh bien, ce sera l'étape 4, on rentre dans le sol en réalisant une étude sur l'humus ainsi qu'un carottage des premiers décimètres du sol jusqu'à ce que la tarière ne puisse plus forer. Donc c'est un tout petit peu plus de 1 mètre. Le gestionnaire peut aussi conseiller au propriétaire d'installer une fosse pédologique qui permet de mieux observer le sol et de l'analyser sur un temps plus long. De son étude du sol, il en tirera la forme du humus selon son épaisseur et la présence plus ou moins importante des différentes couches à observer. Par exemple, un humus de forme mule a une couche organique de litière importante, une couche organique fragmentée peu épaisse et une couche d'assimilation importante avec beaucoup de lombriques, ce qui indique que le turnover, la minéralisation de la matière organique est rapide, alors qu'un humus de forme mort a, en plus de la couche de litière, la couche fragmentée, une couche d'humification importante sans observation de pédofaune, ce qui indique un turnover, une minéralisation plus lente. Après avoir observé l'humus dans les premiers centimètres du sol, le forestier observe ensuite les différents horizons B. Donc ça c'est l'horizon de diagnostic, BC c'est l'horizon de fragmentation de la roche-mère, et si cela est possible, l'horizon C, donc c'est l'horizon de la roche-mère. Grâce à la détermination de la profondeur de chaque horizon, mais aussi de la texture, donc les éléments texturaux c'est le sable, limon, argile, L'observation de la granulométrie, donc la présence d'éléments grossiers, les cailloux et la structure, l'agencement des éléments texturaux entre eux et l'aération du sol, eh bien le forestier peut calculer non seulement la profondeur prospectable racinaire, mais également la réserve utile maximale du sol, qui représente la quantité maximale d'eau qu'un sol peut retenir et qui, par rapport aux données fournies par la pluviométrie locale, donne des indications sur l'interaction et la bonne restitution en eau du sol aux plantes.
Et donc le forestier, il doit faire tout ça, alors que ce soit le climat, les êtres vivants, végétaux et animaux, et même le sol avec la pédologie, c'est tout ?
Eh bien non, c'est pas tout. mais voilà, c'est une chronique un peu technique hein, là, mais j'essaye d'énumérer vraiment l'ensemble des données que le forestier doit garder. Et en fait, ces quatre premières étapes sont le cadre du diagnostic de la station et du peuplement. Donc on peut parler d'une description qualitative du peuplement dans la notion de qualité de la station, mais aussi de la qualité du peuplement qui est bien en station, sur la station, et qui lui convient ou non pour continuer à la cultiver ou non, cette essence. Donc cette qualité du peuplement, selon que les arbres soient vivants ou sénescents, joue sur la détermination de qualité sur les produits à commercialiser. Je n'ai pas encore parlé de la vérification des données sanitaires du peuplement, mais il va de soi que le gestionnaire forestier porte un œil affûté sur la reconnaissance des signes de dépérissement d'arbres ou d'un peuplement entier. Des protocoles de diagnostic sanitaire à ce sujet existent, hein, notamment la méthode Dépéris. Donc c'est Dépéris, on en parlera dans une chronique ultérieure. Enfin, sur la qualité, on pense bien sûr à la notion de qualité de l'écosystème forestier en place et à sa bonne préservation. Un bon forestier pourra compléter son diagnostic forestier en réalisant un inventaire des indices de biodiversité potentielle, donc on appelle ça l'IBP, en comptabilisant tous les habitats faune-flore présents dans le peuplement, et ainsi mieux prendre en compte le vivant et sa préservation dans la vie du peuplement et lors des phases d'exploitation forestière. Mais bon, je peux vous en parler encore des heures. Hein.
Oui, et on pourrait aussi t'écouter pendant des heures, mais il faut quand même continuer cette midinale. De toute façon, voilà. Tu reviens la semaine prochaine pour la partie 2 de cette mini-série. Quel sera le thème ?
Eh bien, on abordera la deuxième partie de ce diagnostic sylvicole en parlant cette fois-ci de la description quantitative hein, qui permet aux forestiers de mieux estimer son peuplement à des fins productives. Je vous parlerai de toutes les mesures à effectuer pour quantifier la dynamique d'un peuplement, en plus des observations visuelles, et également d'estimer le volume en mètres cubes de bois du capital sur pied sur un hectare.
Eh bien écoute Lionel, on a hâte. En attendant, chers auditeurs, chères auditrices, je vous rappelle, vous pouvez retrouver tous les épisodes de L'Onde du Bois en ligne sur notre site internet, et c'est déjà la 16e aujourd'hui.
Voilà, en espérant que ça vous plaise toujours autant. Et pour nous accompagner, j'ai invité les Beatles, donc avec Mother Nature Son.
On les écoute tout de suite.
Born a boy, young country boy, Mother Nature's son. Ooh. All day long I'm sitting singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see rise. Listen to the pretty sound of music as she fly. sun. All day long, I'm sitting singing songs for everyone.